Bonjour à toutes et à tous, on est le 20 mars et je pense que là on est un petit peu sur le rythme de croisière habituel. Ben voilà, une fois tous les 10 jours, on se retrouve pour que je vous parle un peu. Bon, heureusement qu'entre temps, il y a quand même les épisodes avec mes amis Xavier, Lucien ou Lilian. Alors, petit update déjà un petit peu sur mes activités. Pourquoi je fais quand même moins de podcasts en ce moment? C'est parce que je mets un petit peu toute mon énergie créative, j'ai mis en tout cas toute mon énergie créative dans la rédaction de ce petit traité de vibe coding. J'ai décidé d'enlever le petit d'ailleurs du titre. Ce traité de vibe coding, donc, qui est un livre d'environ 200 pages dans la version imprimée, que je suis en train de terminer. Voilà, j'ai terminé, il est en relecture. D'ailleurs, je remercie les relecteurs humains et relectrices qui sont en train de le lire pour me donner un avis. Je l'ai beaucoup fait relire à des modèles d'IA. Ça a été assez intéressant, ça m'a permis de faire des tests sur différents modèles d'IA et de voir un petit peu des différences. Donc voilà, bon, j'ai pas des choses incroyables à vous communiquer là-dessus, mais ça m'a permis de voir que voilà, les modèles un petit peu frontières chinois tels que Kimi, etc., étaient aussi intéressants, pas que pour le code, mais aussi dans des usages comme ça, un petit peu plus créatifs ou de bureautique ou des choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'était un petit truc. Et donc voilà, je suis en train de le finaliser. Là, je suis en train de préparer le site web qui va avec, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, voilà, de toute façon, il n'y a rien à dire. Hein, suivez, vous serez au courant de toute façon quand il sera en ligne, quand il sera achetable. Ça devrait arriver bientôt. J'attends de recevoir aussi une épreuve de test de la part d'Amazon là, pour la version livre. Mais voilà, tout ça, ma target, c'est dans une dizaine de jours, début avril. Voilà, donc ça sera cool. L'autre news qui est importante quand même par rapport à tout ça, donc là j'ai passé une partie de la semaine à Nantes avec mes collègues et associés et de chez Contournement. Et donc l'autre news quand même qui est importante, sur laquelle je vais aussi communiquer, mais bon voilà, comme toujours dans le podcast, vous avez un petit peu la primeur de tout ça, c'est le fait que c'est Contournement qui va sortir des formations au vibe coding sur la base de toutes les choses que j'ai appris. C'est l'année dernière, notamment. Donc, ça va aussi un petit peu dans la logique, c'est-à-dire que moi, la partie formation où j'ai fait des essais, vous le savez, avec des petits vibe coding camp, j'ai fait aussi une formation à Git, qui est une brique fondamentale du vibe coding, qui vient d'intégrer l'université Contournement. Donc, ça fera partie des nombreuses briques, un petit peu fondamentales qu'il y aura dans l'université Contournement pour le vibe coding. Donc, moi, j'ai appris beaucoup de choses, mais je ne savais pas par où prendre les choses. C'est-à-dire que seul, je suis un peu perdu, un peu enlisé dans le fait de produire moi-même des formations. Et puis, pour différentes raisons, sur lesquelles je reviendrai aussi un peu plus tard au mois d'avril, parce que c'est lié aussi à d'autres annonces, mais ça me paraissait plus cohérent de transmettre un peu tout ça. On peut transmettre le bébé, hein, la patate chaude aussi, en quelque sorte, parce que de la conception, de vraiment la mise en œuvre des formations au vibe coding, chez Contournement pour que ça vienne enrichir le catalogue et que ça apporte de la structure et que voilà, ça va être fait avec différents intervenants. Vous verrez, je ne vous dis pas tout. Vous pouvez noter, cela dit, qu'il y aura un webinaire déjà le 2 avril où on va parler de tout ça, où je vais vous expliquer tout ça, avec l'équipe de Contournement, avec notre ami Xavier aussi, que vous connaissez bien, évidemment, qui fait un petit peu partie de l'aventure, on va dire globalement, de toute façon, des formations Contournement. Et puis Nicolas Grenier aussi, que j'avais déjà interviewé et qui fera partie aussi de cette aventure parce qu'il proposera un des premiers modules autour du vibe coding, un module sur Lovable, voilà, que j'ai hâte, que je pense va être très très bien. Donc voilà, donc on prépare des choses assez chouettes et moi ça va me permettre aussi un petit peu de passer à autre chose quelque part avec ce livre que je vais terminer. J'ai un peu terminé mon cycle, on va dire, d'études du vibe coding. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais m'en désintéresser, au contraire, hein, je vais continuer à faire des lives et tout. Même justement, je vais reprendre plutôt la production de vidéos, qui est le canal que j'aime bien, mais sans me soucier, sans avoir dans un coin de la tête un peu cette idée de faire des formations, des camps, des machins. Et pour surtout me reconcentrer aussi, parce que je me suis quand même bien éparpillé là depuis pas mal de mois, me reconcentrer sur le cercle des ops. Qui est loin d'être mort, hein, qui a eu de nombreuses améliorations sur la plateforme de formation. La communauté fait sa petite vie, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, je vous en reparlerai. Mais voilà, donc moi, c'est ma priorité, puisque le cercle des ops s'inscrit de toute façon dans tout ça, hein, puisque c'est vraiment la continuité logique des formations Contournement, et ça va continuer à l'être. Mais voilà, c'est pour ça que la partie formation au vibe coding, elle va être opérée par contournement, sur la base de ce que j'ai appris, mais aussi d'autres choses. Ça va être enrichi, évidemment, par le travail de Louise, qui est designeuse pédagogique de contournement, par le travail d'autres intervenants, comme Xavier ou Nicolas, et puis d'autres encore qui vont venir. Voilà, donc profiter un peu de la puissance de frappe pédagogique de contournement. Je pense que ça va être très bien, ça va prendre un petit peu de temps. Je ne garantis pas que les premiers modules et ce qui va sortir au début sera parfait, c'est sûr que même ça ne le sera pas, mais ça sera déjà bien. Ça sera mieux que ce que beaucoup de choses et de bêtises que je vois autour du vibe coding sur les internets. Et puis ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer très vite grâce à vos retours, grâce à ceux qui participeront un petit peu à bêta-tester toutes ces formations, à nous faire des retours et tout, quoi. Donc voilà, donc on va sortir un petit peu de la tour d'ivoire, on va dire de la réflexion, de la grotte et de voilà pour tout ça, pour avoir des choses actionnables. Voilà, donc ça c'était un petit peu les news les plus importantes. Et puis, il y en aura d'autres. Et voilà, alors il y a aussi d'autres news évidemment dans la vraie vie du monde. Il y a beaucoup de news pas très réjouissantes que je ne vais pas forcément commenter. Mais il y a aussi des news. J'ai envie de revenir sur deux sujets principaux qui sont un petit peu liés. J'ai fait un petit post LinkedIn tout à l'heure pour parler un peu d'automatisation, de ces choses-là. En fait, c'est la notion d'agent. Je vais vous faire une petite aparté, c'est un petit focus là sur parler ça un petit peu en réaction à des news et puis un peu la vision globale. C'est-à-dire que, et c'est un petit peu ce que j'ai partagé à l'équipe de contournement au cours de ma veille hier, on y est complètement dans l'ère agentique de l'IA générative. On a eu l'ère conversationnelle, qui était le début des IA génératives. Il ne faut pas parler d'IA en général. L'IA, on en a beaucoup, par ailleurs, plein de choses, mais depuis le 30 novembre 2022, on est rentré dans la conversation avec ChatGPT. Le chat, c'est conversation. Et donc, on est dans les IA génératives de texte, principalement les LLM et un petit peu aussi d'images, de vidéos. Bon, sujet que vous le savez, m'intéresse pas trop, on va parler de texte. Et la conversation nous a mené maintenant, grâce à l'ingénierie, je répète un petit peu tout le temps la même chose, mais c'est important de le comprendre, la conversation, les LLM, on les a dotés d'outils, et puis une fois qu'on les a dotés d'outils, on les a dotés de boucles, on les a mis dans des boucles d'interaction, dans les boucles qui en ont fait des agents, vraiment. Je veux dire, là, on va pas tergiverser pendant des années, il y a beaucoup de moments où les gens ont parlé d'agents, on s'en était pas, on commence à arriver sur des choses qu'on peut franchement appeler des agents. OpenClaw, quoi qu'on en pense, c'est un agent. Je veux dire, il y a un truc là où, voilà, c'est-à-dire que les capacités qu'il a, l'autonomie qu'il a, la potentielle prise d'initiative, même si ça, on voit bien quand même qu'elle est limitée, mais font que, bon, on est quand même sur quelque chose d'agentique. C'est évident. Et c'est pour ça qu'il y a ce succès. C'est-à-dire que OpenClaw, moi, très franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'en vois pas vraiment d'usage, pour moi personnellement, mais j'ai peut-être pas le contexte. Et puis il y a trop de problèmes de sécurité, on a déjà évoqué. Ces problèmes de sécurité, ils vont s'améliorer, mais par contre, il faut bien reconnaître qu'OpenClaw est voilà, une petite prouesse, une petite étincelle de génie de la part de Peter Steinberger, etc., d'avoir agencé tout ça, d'avoir mis toutes les briques qu'il fallait pour faire un vrai agent. Alors, c'est toutes les briques, il ne les a pas fait lui-même. Hein. D'ailleurs, il est parti de quelque chose qui s'appelle PyAgent, qui est un tout petit agent un peu minimaliste qui se base sur des fichiers Markdown. Et lui, il a rajouté autour la gateway pour communiquer à travers Telegram, etc., différents mécanismes de Heartbeat, etc. Donc voilà, bon, pas rentrer dans la technique, j'ai quelques vidéos sur OpenClaw si vous voulez aller voir. Donc ça signe voilà, l'arrivée de l'IA agentique, on y est, on est en plein dedans, c'est pas l'arrivée, on est en plein dedans. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit, et en même temps, ça fait, franchement, moi je suis pas non plus très impressionné par les usages que j'en vois. Mais c'est le début. Au début, on n'était pas non plus très impressionné par ce qu'on faisait avec ChatGPT, on va pas se mentir. Franchement, au début, ChatGPT, on lui demandait, machin, est-ce qu'il y a des œufs de vache, et il disait oui, on n'était pas impressionné. Maintenant, bon, ça a un peu changé. Mais ça a un peu changé aussi de par les outils qu'on a donnés à CLM et on a découvert des usages. Voilà, donc ça, on y est. Mais moi, ce que je trouve particulièrement plus intéressant, donc OpenClaw, et tous les trucs qui vont avec. Donc, Nvidia a annoncé NemoClo, il y a TinyClo, il y a NanoClo, il y a ce que vous voulez, il y en a plein. Voilà. J'ai un super post LinkedIn que je pourrais vous partager là-dessus, que j'ai trouvé chouette, où il dit, bon, effectivement, l'ingénierie est intéressante, par contre, les usages, ce qu'on voit, c'est que, bon, OpenClo, les gens s'en servent principalement pour gérer leurs courses et faire des to-do list. Ce qu'on sait très bien faire maintenant avec des outils de gestion de tâches depuis très longtemps, avec Trello, etc. Bon, voilà. Mais c'est pas grave. Les usages, j'ai pas de doute qu'il y en a qui vont. Donc, alors, on a ça. Ça, c'est ce qu'on appelle, on va appeler les agents always on. Les agents qui sont toujours allumés. Ils travaillent nuit et jour, ils se réveillent régulièrement. Ça vous coûte un peu de token aussi, mais bon, voilà. Et à côté de ça, on a un autre type d'agent qui me paraissent beaucoup plus intéressant, où il y a des usages beaucoup plus concrets, qui sont les agents que j'appellerais les coworkers. Pour reprendre tout simplement le mot cowork, qui est le cloud cowork, qui sont des agents qui sont, en fait, c'est l'extension des assistants. C'est-à-dire, c'est des assistants, ils ne vont pas se réveiller tout seuls, ils ne travaillent pas quand votre ordi est éteint, ils ne sont pas joignables tout le temps, ils vivent avec vous quand vous êtes en train de travailler, votre cloud cowork est disponible en attente que vous fassiez quelque chose. Il ne prendra jamais d'initiative, même si il y a maintenant des mécanismes d'automatisation dans Cloud Cowork, mais bon, on va dire, c'est principalement, ils sont là, ils attendent, et par contre, dès que vous leur demandez quelque chose, de, par exemple, assembler 10 fichiers Excel que vous avez dans un dossier sur votre ordi, les consolider dans un PDF d'analyse, eh bien, il va faire ça. Il va utiliser différents outils, aller accéder à vos fichiers sur votre ordi, etc. Il peut aussi aller accéder à votre navigateur. Je mets de côté les questions de sécurité qui sont évidemment très importantes pour, avant tout, placer sur les usages. Donc là, on voit qu'il y a plein d'usages de bureautique. Voilà, pour moi, ça, c'est la manière, c'est la bureautique moderne. D'ailleurs, Tariq Rim, dans sa newsletter, disait « la bureautique est morte ». Je ne pense pas qu'elle soit morte, je ne pense pas que Excel va mourir demain. Par contre, on va être de plus en plus à effectivement ne plus aller dans Excel, mais peut-être demander à une IA d'y aller. Attention, moi, je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le temps. Soyons aussi un petit peu efficients et frugaux. Des fois, très franchement, pour aller faire un petit tableur vite fait, peut-être c'est bien de le faire encore un petit peu fonctionner son cerveau que de demander à Cloud Cowork d'aller le faire. Mais je pense que ça va être un assistant redoutable, de la même manière que les assistants juste purement textuels, Claude, ChatGPT et tout, sont devenus très intéressants quand même pour le travail quotidien, pour les gens qui le maîtrisent bien et puis qui en ont le besoin. C'est pas le cas de tout le monde. Mais ça, c'est l'extension, ça va plus loin. Et on l'a vu, hein, il y a toute une tendance. Microsoft a aussi proposé son Cowork. Perplexity a sorti son Tiny Computer, My Computer, je ne sais plus comment ça s'appelle. Manus aussi, qui est un des premiers vraiment précurseurs sur les agents. Manus, c'est un super outil, j'en ai déjà parlé. Vraiment précurseur, mais c'était un agent dans le cloud. C'est-à-dire, vous lui demandiez des choses, mais il n'avait pas accès à votre ordi. Il n'était pas chez vous. Il avait sa propre petite machine virtuelle et tout. Là, ils ont proposé une version qui se trouve chez vous. Et qui va exécuter des choses. Et donc forcément, il bénéficie de tout. Ça fait presque, je pense, 2 ans, 1 an et demi au moins, en tout cas, que Manus est sorti. Il fait des choses très intéressantes. Ce qu'il faut comprendre, et ça, c'était un peu le sujet de mon post LinkedIn du jour, je vous remettrai le lien, vous pourrez aller voir, c'est que moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que tout ça repose principalement sur du code. Et bien que j'ai été un des instigateurs, on va dire, du mouvement no-code en France, aujourd'hui, je prends beaucoup plaisir à tout reconnecter au code. Mais ce que j'aime bien, c'est que bon, ça reste quand même pour moi du no-code, puisque c'est pas moi qui l'écris, le code. Mais tout ça repose sur du code. Et donc, Cloud Cowork, pourquoi c'est sorti aussi vite? C'est parce qu'en fait, ça repose sur Cloud Code. C'est juste une interface un peu propre sur Cloud Code. Mais ce truc, je vous disais, par exemple, d'aller consolider 10 fichiers Excel dans un PDF, vous pouviez aussi le faire avec Cloud Code, en fait, en réalité. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Cloud Code, l'objectif, c'est de faire du code, mais en fait, vous pouvez lui donner des tâches à réaliser sur votre ordinateur. Il va générer le code qui est nécessaire, il va l'exécuter, et puis voilà. Et ce code-là, vous pouvez le jeter à la poubelle parce que peut-être que vous n'avez pas toutes les semaines 10 PDF, enfin 10 fichiers Excel à consolider. Si vous l'avez, vous l'avez, vous pouvez le programmer, etc. quoi. Donc, Cowork, c'est une interface plus jolie, plus agréable, plus intégrée à ça, avec la notion de skills extrêmement importante. Les skills, je vous invite vraiment à aller regarder ce que c'est. Moi, je me suis fait là cette semaine tout le PDF là de Anthropic là qui explique que c'est les skills. Les skills, c'est fondamental. Voilà, ça je le dis aussi. Et parce que c'est lié, les skills, en fait, c'est que des procédures, enfin, qui vont reposer sur du code, sur des API, sur des outils en ligne de commande. éventuellement sur les MCP, mais bon, les MCP, ça y est, ça c'est fini. Hein. J'ai bien fait de vous le répéter à longueur de podcast quand même que les MCP, très franchement, c'était pas vraiment le truc sur lequel il fallait parier. Ça va rester. Hein. C'est une technologie qui a des usages, mais qui n'était pas du tout ce que les gens voulaient nous en faire croire sur LinkedIn. Par contre, ce qui est important, c'est de se dire que oui, ces agents locaux, pas locaux hein, d'ailleurs, hein, OpenClaw aussi, hein, tout ça repose sur le fait qu'ils génèrent du code pour réaliser les tâches qu'on leur demande. Parce que toutes les tâches que l'on a sont réalisables par du code. Ce code qui va lui-même éventuellement utiliser des outils sur votre ordinateur ou des API qui veut fournir peut-être ce que lui ne sait pas faire, il peut demander à une API de le faire. Ou pour se connecter à des outils que vous utiliserez en ligne, Notion, Airtable, etc. Quoi. Voilà, bon, ça, ce sujet-là, on va revenir dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que Cowork n'est qu'une jolie interface de Cloud Code qui vous abstrait l'idée qu'il y a du code qui est généré et tout, et c'est très bien. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, votre ordinateur, il dispose de toutes les primitives dont vous avez besoin. Quand je dis, par exemple, si vous voulez chercher des informations dans des fichiers sur votre ordinateur, vous avez, tous les ordinateurs ont un outil de recherche. Personne ne l'utilise, un outil en ligne de commande, peut-être grep par exemple sur les ordi Mac ou Linux, bon, sur Windows il y a un autre truc qui existe, et tout ça, et ben en fait, les LLM savent générer du code qui va utiliser ça, et donc en fait ils vont faire ce qu'on appelle des scripts, des petits bouts de code qui vont utiliser ces outils et puis remplir les choses que vous voulez faire. Et quand il n'y a pas ça qui est à leur disposition, ben, ce qu'ils savent faire aussi, c'est tout simplement ouvrir Excel, et aller cliquer dans les trucs qu'il faut. Et donc, en fait, ce mélange-là de code, d'utilisation des outils vraiment directement de la machine, d'une manière ou d'une autre, fait que voilà, ça peut vraiment aider à mieux travailler. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire avec, etc. Hein, c'est toujours en fait, preuve de, voilà, un petit peu de mesure dans ces choses-là. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant. Et moi, j'ai pas Cloud Cowork, il n'est pas sur Linux, mais moi, j'utilise Cloud Code de la même manière. C'est un peu plus rustique, mais voilà, maintenant, moi, en fait, je travaille beaucoup en Markdown. J'utilise, en fait, c'est Cloud Code et mon interface de Cloud, en fait, tout simplement. Des fois, je lui demande des choses, je pourrais demander dans Cloud, mais comme ça, je sais qu'il me fait un fichier Markdown directement. Au lieu de faire des artefacts dans Cloud, il me fait un fichier Markdown dans un dossier. Moi, en plus, tout ça, je vais le versionner, comme ça, j'ai des backups et tout. Donc voilà, c'est d'autres manières de travailler. Après, je ne vous dis pas forcément de travailler comme moi. Bon, c'est un petit peu inspiré de ma vie de dev avant, parce que j'adore la ligne de commande et tout, et bosser comme ça sur mon ordi un peu localement. Mais Cloud Cowork, c'est la bonne manière de faire, à mon avis. Voilà. Donc je pense que c'est, toute proportion gardée, hein, c'est juste un assistant, mais beaucoup plus capable qu'avant. C'est-à-dire les assistants qu'on avait, Claude, ChatGPT et tout, ben voilà, maintenant ils deviennent beaucoup plus capables. Ils peuvent vraiment faire des choses directement à notre place quand ça a de la valeur qu'ils le fassent. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils fassent tout. Mais voilà, globalement, j'avais envie de vous parler un petit peu de ça parce que bah, c'est quelque chose qui va revenir. Alors, il y a quand même des news aussi qui sont liées à ça. C'était aussi un peu une sorte de préambule et de réaction un petit peu. Là, le buzz du moment est quand même autour d'OpenClaw et ou de Cowork. Et par exemple, aujourd'hui, il y a un truc qui est sorti qui s'appelle Dispatch et qui est très, très mal interprété par les gens sur LinkedIn. Très très mal, comme d'habitude. J'ai lu un post. Ah oui, ça y est, Dispatch, ça y est, Anthropic répond à OpenClaw avec Dispatch. Non, rien à voir. Dispatch, c'est simplement la possibilité de piloter à distance votre Cloud Cowork. C'est rien de plus. Ça n'a rien à voir avec OpenClaw, et ça, c'est important de comprendre les différences. Ne vous laissez pas berner par... Enfin, c'est même pas berner, parce que c'est juste des choses sensationnalistes. Il faut comprendre la différence. Elles sont subtiles, des fois, mais c'est ça qui va vous permettre d'appréhender le monde dans lequel on est. Cloud Cowork n'est pas un agent always on. Quand votre ordi est éteint, il est éteint. Donc vous ne pouvez pas lui demander des choses tout moment. Dispatch, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la possibilité de faire une demande à votre Cloud Cowork par votre téléphone. En gros, je schématise un peu. Donc si votre ordi est allumé, vous êtes en vadrouille, vous êtes parti prendre un café, mais vous avez une idée vraiment que vous ne voulez pas oublier, vous ouvrez votre téléphone et vous demandez à Dispatch, vas-y, fais ça. Et ça va piloter, en fait, à distance, votre ordinateur. S'il est éteint, il ne se passe rien. C'est game over. Donc, et ça, c'est, en fait, ils ont fait ça. C'est tout simplement, ça repose, je suppose, hein, d'un point de vue technique, sur exactement la même fonctionnalité qu'ils ont fait dans Cloud Code il y a 2-3 semaines. On peut maintenant piloter à distance son Cloud Code si l'ordinateur est allumé. S'il est éteint, non. Alors après, Cloud Code, il y a une version aussi qu'on peut, on peut lui demander de faire des de créer du code dans le cloud de manière asynchrone. Ça, c'est un autre sujet. Mais là, le dispatch, c'est simplement une petite télécommande de, enfin, en tout cas de ce que j'ai lu, hein, j'ai regardé rapidement, de Cloud Cowork. Donc, ça peut être très pratique. Ça n'a rien à voir avec OpenClaw. Ça n'est pas du tout la même logique, la même conception, la même philosophie. Mais voilà, on a besoin, les gens ont besoin sur LinkedIn de faire des titres sensationnalistes. Ou alors aussi, il y a des gens, juste sincèrement, ils ne comprennent pas. Ça, c'est aussi le problème, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent des choses, qui ne comprennent pas, ils ne prennent pas le temps de la réflexion. Ça n'a rien à voir. Je veux dire vraiment, alors, ou alors, moi, j'essaye de, des fois aussi, douter un petit peu de moi-même. Je n'ai pas compris, mais là, je veux dire, ça me paraît complètement logique. Je veux dire, c'est de toute façon, c'est pas, et c'est pour ça, c'est une, vraiment une différence. Et les deux, que ce soit OpenClaw, les agents Loison, ou les assistants agentiques, on va dire, locaux sur votre machine, c'est deux philosophies différentes, avec des tâches potentiellement différentes, mais pas les mêmes. Votre OpenClaw qui tourne 24 sur 24 sur une machine virtuelle à distance, vous ne pouvez pas lui demander d'éditer les fichiers Excel que vous avez dans votre dossier mes documents. C'est, donc, vous voyez, c'est... Et je vous recommande vraiment la plus grande prudence quand, si vous aviez l'idée d'installer OpenClaw sur votre ordi. Ça, je ne vous le recommande pas. Donc après, si vous l'avez installé sur un petit Mac mini sur le bureau à côté de vous, bah, s'il y a des documents Excel dans ce Mac mini, bah, peut-être que là, il peut travailler dessus. Mais ce n'est pas le même ordi où vous êtes, vous voyez. Donc, et OpenClaw, il y a vraiment cette idée qu'il faut qu'il soit tout le temps allumé, quoi. Donc voilà, globalement, j'avais envie un petit peu de vous parler de ça. Je peux vous rajouter un truc dedans qui est un petit peu lié, même si c'est un petit pas de côté. Il y a aussi une nouvelle feature dans Cloud, qui est le fait que Cloud peut maintenant générer des graphiques. Graphiques au sens pas des images, hein. Je pense qu'Anthropic n'ira jamais sur la génération d'images, Studio Ghibli et tout, mais par contre peut générer des graphiques. C'est-à-dire, si vous lui demandez, si vous lui posez une question et que dans la réponse, il peut l'illustrer, par exemple, vous lui demandez de l'aide pour modéliser un processus. Voilà, vous êtes dans votre boîte et vous avez, vous voulez modéliser l'onboarding, vous discutez avec Cloud, vous lui dites « Ok, moi quand j'ai un nouveau salarié, ça fait ça, ça et ça. » Et puis lui, il va vous le mettre au propre. Il va ensuite vous faire un schéma. Et ce schéma va être bien intégré dans le flux de discussion. Et donc, ça a été annoncé comme une feature des gens sur le Slack de NoCode France qui ont dit « Ah, c'est génial et tout. » Mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est que du code. C'est que du code. Et en fait, ça, vous pouviez le faire depuis très longtemps. Et d'ailleurs, certains gens le faisaient déjà. Vous vouliez faire avant un graphique à Claude, vous pouvez très bien lui demander. Il vous fait du code. Le code peut très bien faire des graphiques, des modélisations, voire même des petites images avec du SVG. Et puis, vous l'affichez juste, vous l'affichez dans un artefact. Là où ils ont été malins, c'est que là, c'est bien intégré dans le flux de la discussion. C'est charté aux couleurs de Claude et tout. Mais ça n'est rien de plus, rien de moins que du code. Et donc, vous voyez que en fait, c'est un peu ça. En fait, le code permet de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que tout ce que l'on a l'impression, vous auriez pu demander avant à Cloud Code de vous faire un diagramme. Enfin, voilà, c'était pas. Mais tout ça commence un peu à s'intégrer. Donc, il y a beaucoup de notions d'interface et d'accessibilité et de présentation dans tout ça. Mais à la fin, ce dont on se rend compte, c'est que les LLM, ils sont très bons pour un truc, c'est faire du code. Et que faire du code, ça peut vous permettre de faire plein de choses, de faire des slides, de faire du motion design. Moi, j'ai fait, par exemple, toutes mes transitions et tout sur ma chaîne Twitch avec du code, avec un framework qui s'appelle Remotion. Ça permet de faire des animations, ça permet de modéliser des processus, des schémas, des logigrammes BPMN. Vous voyez, donc il y a plein d'usages. Ça, c'est vraiment un des sujets dans lesquels j'ai envie de me plonger un peu plus, c'est tout ça. Parce que je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est très efficace, en fait. C'est beaucoup plus efficace, à mon sens, de demander de générer du code qui fait un logigramme BPMN que d'aller dans Gemini, Nano Banana, je ne sais quoi, et lui demander de faire une infographie qui sera peut-être certainement plus jolie, mais où il y aura une ou deux lettres qui vont partir en freestyle et qui a consommé aussi, à mon avis, beaucoup d'énergie. Alors ça se débat, ça se trouve, le code génère plus d'énergie, mais je ne crois pas, parce qu'en plus, vous pourriez vraiment utiliser un tout petit modèle, type Haiku, pour faire un logigramme BPMN, par exemple, ça marche très bien, quoi. Donc voilà, bon, c'est un petit épisode, tout est lié, mais j'avais envie un petit peu de vous dire ça. Voilà, écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des réactions sur ce que j'ai dit, si vous trouvez que c'est des bêtises, c'est intéressant. Je suis disponible toujours pour répondre sur le Slack de NoCode France dans le canal les médias d'Alexis ou en privé si vous ne voulez pas lancer une discussion publique, même si je vous invite plutôt à lancer des discussions publiques parce que c'est plus sympa d'avoir l'avis d'autres gens. Allez, je vous dis à très bientôt, salut.